France Culture.
Les midis de culture. Marie Laborie.
Quand un de nos grands comédiens rend hommage à un de nos grands sociologues dans son livre « L'ami de la famille », Denis Podalydès raconte comment il a connu Pierre Bourdieu dans l'intimité de sa famille. Exercice d'admiration, portrait en creux aussi d'un jeune acteur qui se cherche. Denis Podalydès sera mon invité à partir de 13h. Mais avant, place au plateau. Critique du jour, on va discuter de deux expositions à voir à Paris. L'art dégénéré, le procès de l'art moderne sous le nazisme, c'est au musée Picasso. Et puis Hans Hollein transforme, un retour sur la démarche de l'architecte autrichien, c'est au Centre Pompidou. Bonjour à toutes et à tous et bonjour aux critiques du jour, Sarah Hilar-Meyer, critique d'art et commissaire d'exposition.
Bonjour Marie.
Bonjour Stéphane Coréard, éditorialiste au Journal des Arts.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue à tous les deux.
Le programme de Dada était, contrairement à ce qu'on pense communément à la destruction, c'était de créer de nouvelles valeurs, renverser les valeurs existantes. Et pour cela, évidemment, pour les renverser, il fallait détruire les valeurs ayant cours communément et plus ou moins académiques. C'est pour cela que la réputation de Dada, le mouvement destructeur, a pris pied. Et malheureusement, on pense que c'est ça vraiment uniquement le mouvement Dada. Et évidemment, on ne peut pas détruire, on ne peut pas construire si on ne détruit pas auparavant ce qui existe.
Tristan Tzara, un des fondateurs du mouvement Dada, qui, comme Paul Klee, Otto Dix, Marc Chagall, Vassili Kandinsky, Pablo Picasso, a vu ses œuvres classées par les nazis dans l'art dit dégénéré. Dès l'arrivée d'Hitler au pouvoir en janvier 1933, les artistes des avant-gardes sont mis à l'index, menacés, certains sont tués, leurs œuvres décrochées des musées, détruites, vendues. Mais 700 d'entre elles furent utilisées pour les tristement célèbres expositions d'art dit dégénéré, organisées par le régime afin d'édifier l'opinion allemande. Le musée Picasso présente une soixantaine de ses œuvres dans son exposition « L'art dégénéré, le procès de l'art moderne sous le nazisme ». Expo qui explore aussi l'émergence de la théorie de la dégénérescence, mais encore l'association par les nazis de l'art moderne à la pathologie mentale. C'est la première exposition de cette ampleur consacrée à cette période en France. Elle présente des œuvres qui n'ont été retrouvées qu'au début des années 2010 également. On commence avec un avis rapide, Sarah Hilar-Meyer.
C'est une exposition qui est importante évidemment, étant donné que déjà elle rentre en écho aujourd'hui en France avec ce que l'on vit dans le reste du monde, à savoir une montée des extrêmes droites. Et de ce point de vue, ce qui me semble important avec cette exposition, c'est qu'on voit à quel point une idéologie, un système politique est toujours simultanément un système en fait de représentation. C'est-à-dire une manière pour une société de se représenter elle-même et de se représenter le monde selon certains cadres, selon certaines normes, selon certaines valeurs, comme le disait c'était dit dans votre extrait. Et c'est ce qu'explique l'acharnement justement des nazis à l'égard de l'art moderne, qui pourrait paraître aujourd'hui un peu curieux, si on prend pas en compte justement le fait que les représentations, c'est pas quelque chose de secondaire par rapport à la réalité, mais au contraire qu'elles peuvent soutenir ou contester un ordre de réalité qui est aussi un ordre social. Et ce qu'on voit dans cette exposition, c'est que donc une guerre politique, c'est toujours aussi simultanément un conflit entre des visions du monde. Voilà.
Stéphane Correa.
Oui, effectivement, c'est une exposition sans doute nécessaire parce qu'elle résonne fortement avec l'actualité, comme l'a dit Sarah, même beaucoup trop d'actualités qui nous viennent à l'esprit quand on songe aujourd'hui même à l'immixtion du politique, des États dans la création artistique. Ça commence par des coupes budgétaires violentes aux États-Unis, mais aussi ici en France, dans les pays de la Loire, on en a beaucoup parlé. Le bannissement de livres, voire même de termes, la censure dans les musées aux États-Unis, il y a eu des articles aussi récemment, l'emprisonnement ou même l'assassinat d'artistes ou d'écrivains. Et cette histoire, elle va très vite. C'est ce que nous montre l'exposition. Je rappelle quelques dates. En janvier 1933, Hitler devient chancelier. En avril, les nazis ferment l'école d'art du Bauhaus. En mai, ils organisent leur première auto-da-fé de 25 000 livres jugés non allemands. En juillet, ils lancent la campagne d'eugénisme par stérilisation. Et en septembre, ils organisent la première exposition d'art dégénéré à Dresde. Donc, au pas de charge, exactement comme Trump, par exemple, est en train de le faire aux États-Unis, pour l'instant à une autre échelle, mais avec le même effet de sidération. Le sujet est donc vaste. Il est totalement brûlant d'actualité et vous dites une exposition d'ampleur, sans doute une exposition qui manque justement d'ampleur et peut-être même un petit peu de rigueur de mon point de vue scientifique, ce qui est quand même problématique compte tenu de son sujet à la fois brûlant et sensible.
On va revenir à ça tout à l'heure, Sarah Hilar-Meyer, cet aspect, voilà, l'importance de la représentation pour un régime politique, comment c'est représenté dans cette exposition?
L'exposition justement est bien conçue de ce point de vue-là, elle est conçue en fait en section thématique Donc je peux en dire certaines, comme par exemple le commerce de l'art dégénéré, archéologie de la notion de la dégénérescence ou race et pureté. Et en fait, ce qui est intéressant avec ces sections thématiques, c'est qu'elles permettent de comprendre à travers quelle grille de lecture les nazis ont en fait mené une bataille culturelle contre l'art moderne. Et cette grille de lecture, ce qu'on voit, c'est qu'elle est essentiellement symptomatologique, c'est-à-dire que tout ce qui contrevient en fait dans la modernité artistique au système de représentation académique, toutes les déformations, par exemple anatomiques, spatiales, l'usage aussi non naturaliste des couleurs, eh bien, va être identifié comme le symptôme d'une maladie mentale ou physique qui appartient à la fois au sujet représenté, mais aussi aux artistes. Mmh. Ce qui fait que leurs œuvres, elles sont pas présentées en fait comme des créations, mais comme des symptômes, en l'occurrence d'une dégénérescence, qui tiendrait à la fois à leurs origines raciales, ethniques, pour beaucoup d'entre eux sont juifs, mais aussi à leur orientation politique. Parce que beaucoup également d'entre eux sont communistes. Et l'art dégénéré, à ce moment-là, est synonyme d'art judéo-bolchevique. Donc, c'est une appellation qu'on n'a peut-être pas trop en tête. Et donc, ce qu'on voit là, c'est que l'art moderne, pour les nazis, c'est à la fois, en fait, un virus qui menace de contaminer l'ensemble du corps social, mais c'est déjà, en fait, l'expression d'une désintégration, en fait, de l'ordre social, face à laquelle, pour régénérer la société, il faudrait opérer un retour à l'ordre, qui est y compris dans les arts, ce qui veut dire un retour en fait à une forme de néo-académisme qui représente des corps idéalisés, solides, purs, forts, comme on le voit justement dans une image d'archive qui est présentée dans la deuxième salle d'exposition, qui montre en fait l'exposition L'art allemand, voilà. Qui s'est tenue en même temps que l'art dégénéré en 1937. Et donc là, on a tout de suite, je trouve, dans cette exposition, en fait, un contraste assez fort entre ces images d'archives, avec cet art néoclassique, et les œuvres autour d'art moderne. Donc on comprend tout de suite qu'il s'agit en fait d'un conflit, justement, entre d'une bataille culturelle, d'un conflit entre des visions du monde, sur lesquelles on pourra aussi revenir, parce que je crois que d'une certaine manière, les nazis ne se sont pas trompés, mais je préciserai pourquoi.
Ah bah si, non, précisez-le maintenant.
Non mais peut-être après, parce que c'est un peu long.
Stéphane Correa.
Oui, d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est qu'alors qu'en 1933, 1937, on sort de 10 ou 15 ans de peinture abstraite, de peinture surréaliste aussi, elles sont quasiment absentes de l'exposition et des obsessions des nazis qui concernent plutôt la représentation de la réalité. Donc ça, c'est du monde, de la transposition du monde. Néanmoins, cette notion d'art dégénéré a été utilisée par les nazis pour persécuter, on va dire, résumer les choses, plus de 1000 artistes, 1400 artistes.
Donc tous les noms sont affichés.
Tous les noms sont affichés dans la première salle et en litanie également dans le catalogue. Évidemment, l'exposition qui se déroule dans 5 salles ne pouvait pas rendre compte de ces 1400 artistes. Et il a fallu faire des choix. L'exposition fait des choix et c'est là où, à mon avis, ces partis pris peuvent d'emblée s'avérer discutables. Par exemple, l'exposition se présente comme un accrochage classique. Mm-hmm. Vous avez des œuvres alignées, les unes à côté des autres, sagement, sur des fonds monochromes, etc. Alors que les expositions d'art dégénéré, on en voit quelques documents dans l'exposition, mais surtout dans le catalogue, ne ressemblaient pas du tout à ça. Les tableaux étaient amassés comme des corps dans un charnier, cernés de slogans agressifs, criards qui conditionnaient, manipulaient le spectateur pour les amener à ressentir directement le caractère supposément dégénéré de ces œuvres. Là, au contraire, donc les œuvres sont présentées de manière extrêmement classique. On a l'impression d'être dans un musée tout à fait normal, entre guillemets.
Bah, l'idée n'est pas de reproduire l'exposition.
Non, mais on ne comprend pas finalement le choc qu'ont voulu créer les nazis sur et comment ils ont manipulé les œuvres, si vous voulez. D'ailleurs, il n'y a même pas de signalétique claire pour dire quelles étaient les œuvres de l'exposition qui étaient vraiment dans l'exposition initiale d'art dégénéré ou pas. Il faut vraiment scruter les cartels. De la même manière, l'exposition mélange des chefs-d'œuvre de grands noms de l'histoire de l'art et puis des productions anecdotiques d'artistes secondaires, sans qu'on comprenne bien d'ailleurs comment elles ont été choisies pour l'exposition, ni même comment les nazis pouvaient les avoir choisies. Il manque par exemple l'œuvre la plus emblématique, celle qui fait la couverture du catalogue de l'art dégénéré, une tête d'Otto Freundlich, qui je crois avait disparu, mais que les nazis ont reproduit pour pouvoir la mettre sur en couverture du catalogue, parce que par exemple une tête déformée, de caractère supposément négroïde, etc. Cette sculpture n'existe pas, mais au Centre Pompidou, il y en a une version monumentale très très proche. C'est pas ça que les commissaires ont choisi de montrer, mais un tableau abstrait d'Otto Freundlich qui finalement n'a pas de rapport direct, ni avec l'exposition d'origine, ni avec le sujet. Donc effectivement, si les nazis, pour reprendre un peu ce que disait Sarah, peuvent apparaître comme de bons critiques d'art ou de bons commissaires d'exposition...
On va y revenir, on a dit, pour
voilà,
préciser.
Voilà, parce qu'il y a des chefs-d'œuvre effectivement sublimes. Il y a l'Arlésienne de Van Gogh, il y a des tableaux d'Émile Nolde stupéfiants, ouais. Il y a un chef-d'œuvre de Georges Grosse, Métropolis, des très beaux Paul Klee, mais globalement, Il n'y a pas beaucoup de chefs-d'œuvre, il y a beaucoup d'artistes moins connus, mais pas forcément beaucoup de découvertes. En tout cas, de mon point de vue, il n'y a pas d'artistes beaucoup que je ne connaissais pas et que je sauverais de cette exposition. Sauf peut-être, et c'est effectivement intéressant parce qu'il y a une présence un peu souterraine de la collection du psychiatre Hans Prinzhorn, qu'on considère comme l'inventeur de l'art brut et qui était donc un psychiatre qui a collectionné l'art de ses malades. Et là, il y a des portraits de malades mentaux au crayon par Elfried Loss Wachtler qui sont vraiment magnifiques. Et ce qu'on comprend alors, effectivement, par rapport à ce que disait Sarah, c'est que c'est moins l'art dégénéré, finalement, qu'ont voulu pointer les nazis, souvent, que l'art des dégénérés. Mmh. C'est-à-dire de l'art qui est fait par des personnes qu'ils pointent eux-mêmes comme dégénérés.
Alors, Sarah, ils étaient bons critiques d'art. En tout cas, ils avaient l'œil.
En tout cas, je comprends les remarques de Stéphane. Moi-même, je dois dire que j'étais peut-être un tout petit peu déçue en arrivant dans cette exposition parce que, évidemment, c'est pas une reconstitution de l'exposition d'art dégénéré de 37. Donc, on n'a pas le choc de cette exposition et on peut avoir du mal à comprendre quel choc a produit l'art moderne sur les nazis. Peut-être que pour ça, il aurait fallu être un peu plus audacieux et mettre en comparaison, en fait, des productions de l'art officiel, académique, avec l'art en fait en vis-à-vis de l'art moderne. Bon, c'est pas ce qui est proposé. Néanmoins, oui, il se trouve que je pense que les nazis ne sont pas totalement trompés, comme je disais, non pas parce que ça serait l'art moderne un art dégénéré, évidemment, mais parce que l'art moderne ça recouvre un ensemble de mouvements qu'on voit ici, qui par leurs écarts à l'égard des normes de représentation classiques, en fait perturbe, c'est vrai, de manière délibérée, un ordre de vision qui est simultanément, qui est pour eux, pour les modernes, l'expression d'un ordre social traditionnel que justement les nazis veulent régénérer. Et cette perturbation, ce qu'on voit quand même dans cette exposition, c'est qu'elle peut passer par des visions qui vont se montrer critiques à l'égard de l'ordre établi. Je pense en particulier au peintre Georges Gross, dont on voit ici le tableau Métropolis, et qui représente le chaos d'une ville moderne en proie à la violence, plutôt une violence apparemment de nature capitaliste. Sur qu'on pourrait revenir, on peut identifier ça par les costumes que portent certains hommes dans cette peinture. Mais cette perturbation d'un ordre de vision classique, elle peut aussi se faire au profit de visions qui vont en fait proposer d'autres manières de vivre selon d'autres systèmes de valeurs, comme il était dit dans votre extrait. Et c'est le cas des expressionnistes allemands comme par exemple Kirchner ou Haeckel qu'on voit dans cette exposition et qui par exemple représente, on voit ici une scène de nu dans un paysage bucolique, dans une sorte, je dirais, de néopaganisme sensualiste qui s'oppose à l'ordre moral bourgeois. Donc ce qu'on voit, c'est que quand même, dans cette exposition, malgré tout, c'est que les modernes perturbent d'un côté l'ordre établi et de l'autre revendiquent, pour certains, l'invention d'un nouveau monde, voire d'un nouvel homme, par le renouvellement des formes qui iraient puiser du côté, comme vous le disiez Stéphane, de l'art des enfants, des aliénés et aussi des arts dits primitifs. Et c'est juste là, à nouveau, peut-être dernière chose, où les nazis, je trouve, se montrent particulièrement retors et malins, c'est qu'en fait, ils vont revendiquer cette revendication contre les modernes en disant que, non, ils ne se situent pas à l'avant-garde de l'humanité, mais à l'arrière-garde de l'humanité, voire même du côté de la dégénérescence, du fait même de leur proximité revendiquée avec l'art des aliénés, l'art des enfants et les arts extra-occidentaux. Donc, et en retour, eux, les nazis vont dire qu'ils vont s'approprier l'idée, évidemment, d'être à l'avant-garde d'une nouvelle humanité, mais qui est une humanité parfaitement réactionnaire.
Est-ce que cette exposition documente ce qu'il advient des peintres dont on voit les œuvres?
Alors les peintres finalement ont été relativement épargnés, si je puis dire. Enfin, ils ont été déchus de leur poste de professeur, se sont exilés pour beaucoup. Mais justement, il y a des aspects que je trouve passionnants qui sont à peine effleurés dans l'exposition et qui, à mon avis, auraient mérité qu'on s'y arrête. Et déjà, ce qui m'énerve pas mal dans les expositions souvent, c'est qu'on se donne facilement le beau rôle, si vous voulez. C'est-à-dire que là, par exemple, la France est quasiment absente de cette histoire. Il y a pourtant des points de contact qui aurait, à mon avis, été intéressant, à commencer d'abord par le rôle joué par Picasso lui-même pendant la Deuxième Guerre mondiale, dont on sait qu'il a été à minima pas exemplaire. Il a rien, apparemment pas fait grand chose pour sauver son ami le poète Max Jacob de la déportation puis de la mort. Là, il y a un des moments les plus bouleversants de l'exposition, c'est le mur de lettres que Otto Frönlich envoie à Picasso, puis ensuite, une fois qu'il est déporté, sa femme, Jeanne Kosnick-Kloss, qui est une musicienne et artiste, écrit à Picasso pour le supplier d'intervenir. Et en face, il n'y a pas les réponses de Picasso, et ce silence est quand même extrêmement pesant, et Otto Frönlich mourra à Sobibor en déportation. Le voyage, de la même manière, en 1941, qui est fait par des grands artistes français En Allemagne, le voyage est organisé notamment par Arno Brecker, qui est le sculpteur officiel de d'Hitler. Il y a quand même des gens comme Vlaminck, comme von Dongen, comme Derain. Mm-hmm. C'est à peine mentionné, il n'y a pas le nom de tous ces artistes. Ce qui est évidemment l'ironie de l'histoire, c'est que des artistes comme Derain ou Vlaminck ont pu faire dans les années 10, dans les années 20, des tableaux qui auraient tout à fait pu figurer dans l'art dégénéré. Il y a une coupure de presse où Vlaminck dit que Picasso a tué les fondements même de la peinture moderne, etc. Ça aurait quand même été intéressant, je trouve, de balayer un peu devant sa porte. Et puis, il y a quand même des nuances aussi qui, je trouve, ne sont pas assez développées. Il y a des dissensions, des divergences à l'intérieur même, en fait, du camp allemand, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il y a un artiste, par exemple, comme Franz Marc, un des fondateurs du groupe du Blaue Reiter, qui est un héros allemand de la Première Guerre mondiale, qui est mort au front en 1916 à Verdun. Et il y a des Allemands qui disent, mais non, faut pas le mettre dans les artistes dégénérés, alors que c'est un
héros. C'est dit dans le catalogue, pardon, Stéphane.
Non, c'est dit. Je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, ces dissensions, je trouve, sont très intéressantes et elles n'apparaissent que par touche. J'en ai relevé deux, il y en a peut-être d'autres. Mais il y a aussi le cas de Georges Schrimpf, qui est ici représenté par une jeune femme nue devant un miroir et qui, certes, était antimilitariste et liée à la nouvelle objectivité allemande, mais il n'en était pas moins collectionné par Rudolf Hess, qui est un des compagnons politiques les plus proches d'Hitler et qui est intervenu.
Et puis il y a Emil Nolde, qui était, en fait, qui a été classifié du côté des artistes dégénérés, mais qui a fait savoir aux nazis qu'en fait, il était national-socialiste. Oui. Donc, il ne comprenait absolument pas cette affiliation.
Mmh. Et il y a une chose, en revanche, qui est, pareil, mieux développée dans le catalogue, mais présente dans l'exposition, que j'ai trouvé passionnante, c'est la fin sur le marché de l'art, parce qu'il y a une petite partie qui est consacrée à l'affaire Gurlitt, il y a quelques années.
Je voulais qu'on vienne sur la collection Gurlitt qu'on a retrouvée.
Qui a défrayé la chronique, puisque, en fait, Cornelius Gurlitt, dont le père avait été chargé par Goebbels de commercialiser beaucoup de tableaux d'art dégénéré ou d'œuvres spoliées auprès de familles juives. Donc son fils est arrêté en rentrant de Suisse, contrôle douanier, c'était en 2010.
Oui, début 2010, oui, 2010.
Voilà, c'est ça, basique, on le contrôle, il a des faux papiers sur lui, on va du coup perquisitionner chez lui et on trouve 1500 œuvres d'art, dont beaucoup sont des œuvres qui étaient dans les expositions d'art dégénéré, qui ont été confisquées par les nazis. Il y a sur ce mur 5 œuvres sur papier absolument toutes plus belles les unes que les autres, de Georges Grosz, d'Oscar Schemmler, de Picasso et d'Otto Dix. C'est un chapitre évidemment passionnant, un rebondissement passionnant de cette histoire. C'est le musée de Berne à qui il a légué, il est mort en fait en pleine affaire, ce Cornelius Gurlitt, et il a légué tout ça au musée de Berne qui est en train de faire un travail de mémoire, de restitution autour de ça. Une des plus belles œuvres parmi les cinq, c'est un masque à gaz peint justement à la gouache par Otto Dix en 1916. Et je rappelle qu'Otto Dix, lui, quand il a été justement inquiété par les Allemands en 1936, donc 20 ans après, il a proclamé crânement « Restons donc ce que nous sommes, vive la dégénérescence ». Deux ans après, il est arrêté par la Gestapo, détenu. Il sera enrôlé de force dans les armées de milices civiles qui devaient défendre le territoire du Reich. Et il sera finalement fait prisonnier de guerre par les Français. Voilà, c'est ces vies complexes, Marie, ces intrications complexes entre les vies et les œuvres qui, je trouve, rendent cette exposition au final passionnante.
L'art dégénéré, le procès de l'art moderne sous le nazisme, c'est au musée Picasso jusqu'au 25 mai à Paris, évidemment, commissariat Johan Poplar et François Darrot, et le catalogue de l'expo aux éditions Flammarion est disponible en librairie.
12h-13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
On devait écouter un petit son de l'architecte Hans Hollein, mais qui n'est pas parti. Est-ce qu'on peut la voir ? Oui, on y va.
Pour moi, l'architecture est définie par deux choses. Quelle que soit l'époque ou la culture que l'on observe, on retrouve toujours, d'un côté, l'aspect rituel et religieux de l'architecture comme art. Et pour moi, l'architecture est bien un art. Et de l'autre, la question de la survie et de la préservation de la température du corps.
L'architecte autrichien Hans Hollein, donc, auquel une exposition est consacrée au Centre Pompidou. Pour lui, l'origine de l'architecture était sacrée, sa vocation étant magique, sacrée et sexuelle. Dès les années 60, l'architecte autrichien s'est opposé au modernisme, au rationalisme dans Le Corbusier, par exemple. Mais ce sont ses multiples facettes que l'exposition explore. Prix Pritzker en 85, Hollein a touché à tout, immeuble, musée, piano, meuble. Parmi ses réalisations les plus connues, on citera la Haas House, à Vienne, le musée d'art moderne de Francfort et Vulcania dans le Puy-de-Dôme. On commence avec un avis rapide, Stéphane Coréard.
Oui, c'est une exposition qui est riche en découvertes parce qu'en France, on connaît mal l'œuvre d'Anselheim. Comme vous l'avez dit, on le connaît surtout par ses œuvres tardives. Il a réalisé un seul bâtiment en France, c'est le musée Vulcania, le musée auvergnat voulu par Valéry Giscard d'Estaing. Et puis, on connaît aussi ses meubles typiques du mouvement Memphis des années 1980. Mais finalement, sa force fait aussi sa faiblesse parce qu'en l'exposition resitue finalement le travail d'Anselheim dans le contexte des recherches de l'anti-architecture ou de l'architecture radicale des années 1960-1970. Mais du coup, elle le banalise et ne permet pas, à mon sens, de saisir vraiment la singularité de son apport à cette histoire qu'on connaît quand même assez bien, en tout cas sur laquelle il y a déjà eu beaucoup d'expositions. Néanmoins, ça aurait été dommage de ne pas entendre l'extrait sonore que vous avez lancé, Marie, parce qu'effectivement, dès l'entrée, on est saisi par le fait qu'on n'est pas dans une exposition d'architecture classique. Hein, on ne voit pas de maquette, par exemple, ou de dessin d'architecture quand on rentre. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit en fait une sculpture, on y reviendra, un peu hybride, entre justement l'art et l'architecture. Ce qui est tout à fait logique, parce que jusque dans les années 1960, finalement, ces deux activités, l'art et l'architecture, n'étaient pas vraiment séparées. Finalement de Michel-Ange ou Léonard de Vinci jusqu'à Le Corbusier ou Hundertwasser, les artistes et les architectes souvent n'étaient qu'un.
Sarah Hilarmeyer.
Oui, bah, je crois que c'est, à mon sens, une exposition qui a l'image de cet architecte, mais aussi artiste, designer et commissaire d'exposition. C'est-à-dire qu'elle est intéressante et séduisante à beaucoup d'endroits. Mais franchement, je dois dire aussi, pas facile à suivre ni à comprendre. Justement, tant les pistes de recherche développées par Anselheim sont diverses, et tant aussi ses positionnements, je trouve, semblent contradictoires. Je pense en particulier à son rapport à la modernité architecturale et à son idéologie du progrès, dont il prétend s'éloigner, mais dont il semble quand même le plus souvent emboîter le pas, je dirais, dans une forme de technophilie New Age. Voilà.
Alors, concrètement, effectivement, qu'est-ce qu'on voit, Stéphane Coréard ?
Alors, donc, quand on arrive, je le disais, on est confronté à un hybride de sculpture et de maquette d'architecture en béton et métal, qui a été réalisé par Anselheim en 62-63, qui s'appelle Vision de la ville, configuration plastique. C'est un choix très judicieux, c'est un chef-d'œuvre, parce que cette chimère architecturo-sculturale demeure hermétique, énigmatique. On voit bien que ça parle de construction, de circulation, de flux, mais l'œuvre conserve tout son mystère. C'est moins vrai pour les œuvres qui l'entourent, et là, je comprends la réaction de Sarah, même si justement elle est assez classique de beaucoup d'architectes finalement de cette génération, c'est-à-dire qui ont fait un écho finalement à la vie artistique de leur époque, qui sont imprégnés de la vie artistique de leur époque, mais souvent avec un léger retard. Par exemple, si on regarde tout de suite sur la gauche, on voit que Anselheim a été un peintre gestuel, un calligraphe occidental, aurait dit Malraux de Georges Mathieu, voyez, mais en 1960, il a fait des collages d'architecture utopique, mais en 64, alors que les situationnistes ou le groupe Archigramme avaient déjà commencé. Il décrète en 1967 que tout est architecture, il propose des pilules ou des bombes de gaz qui modifient sensément la perception de l'espace, mais on est déjà 10 ans après la psychogéographie de Guy Debord qui présentait cette branche des situationnistes comme la réappropriation de l'espace urbain par l'imaginaire. Ensuite, il propose des micro-architectures à la limite de l'installation, un bureau mobile, par exemple, qui est une bulle de plastique transparent, qui fait même pas 1 mètre carré, dans laquelle il peut se tenir pour travailler. Mais il y a déjà l'architecture gonflable d'Hans-Walter Müller qui a commencé 1 ou 2 ans avant. Donc, vous voyez, même si ces propositions sont pertinentes, stimulantes et parfois même vraiment réussies, j'en retiendrai par exemple dans cette section, première section de l'exposition 1, c'est une porte, dite porte de la frustration, qu'il expose en 1968 à la Triennale de Milan. Et c'est une porte qui est couverte de poignées. Il y a 42 poignées. Il y en a évidemment qu'une qui fonctionne, les autres sont décoratives, et ça nous place évidemment au cœur de la question de l'ornement, qui est la grande question de l'architecture moderne, et qui va traiter quand même un peu à sa manière.
Sarah Hilarmeyer.
Oui, alors peut-être ce qu'on voit quand même dans l'exposition, c'est que Anselheim, c'est quelqu'un qui se conçoit avant tout comme un concepteur, c'est-à-dire quelqu'un qui va réfléchir et penser ce que peut être l'architecture après en fait la Seconde Guerre mondiale, donc à travers des projets expérimentaux, des installations, mais aussi donc des expositions et puis des constructions en dur dont on voit ici des maquettes. Et ce que je trouve effectivement surprenant, c'est qu'il présente son travail comme une approche critique de la modernité architecturale, qu'il réduit préalablement et commodément à un strict rationalisme et fonctionnalisme. Mais ce qu'on voit dans une partie justement de sa production, en particulier la première période années 60-70, c'est que les travers qu'il attribue au modernisme sont chez lui comme, je dirais, poussés à l'extrême, en fait, sans que ce soit manifestement critique, alors que c'est ce qu'on pourrait s'y attendre. Alors je pense, moi, Stéphane a parlé du bureau Bulle, moi je pense à la réduction d'une unité d'habitation à une cabine téléphonique d'1 mètre cube, dont on nous dit qu'elle répondrait absolument à tous nos besoins physiques et psychiques. en étant relié à tous les réseaux d'information existants. Bon, je sais pas, moi, ce que réunit cette chaise, sans doute toilette aussi, et puis gazinière, on imagine, hein, dans cette cabine téléphonique. Donc, en tout cas, il me semble que plus rationaliste, on meurt. Et on pourrait se dire que, il y a une forme d'ironie, mais en réalité, je crois que vraiment, c'est l'expression d'une foi technophile, un peu naïve, qui relève de la dystopie, en fait, davantage que de l'utopie. Alors, chose, par contre, effectivement, qui le distingue, enfin, croit-il, de la modernité, c'est le fait que pour lui, l'architecture doit répondre à des besoins donc physiques et psychiques et doit avoir une dimension, disons, spirituelle. L'architecture doit symboliser une philosophie et lui en a une de philosophie. Elle mêle catholicisme et donc paganisme et ça consiste à célébrer les forces de la nature que serait, je cite, un héros et Thanatos, donc les cycles de la vie et de la mort.
Mais alors comment ça se concrétise ça?
Alors justement, ça donne lieu à un répertoire de formes et de couleurs comme l'or, le rouge et le palmier qui vont symboliser le désir, la mort, la résurrection, et on va retrouver ça dans certaines de ces installations, dans certaines de ces architectures. Moi, je pense à une forme en particulier qui est une brèche qu'il associe au sexe féminin et dont il perce certains murs, notamment le pavillon autrichien, la Biennale de Venise de 72, brèche qui va conduire au sanctuaire de la nature. Et donc, c'est une fente femme qui est associée au culte de la terre-mère. Alors, on peut trouver ça un peu fumeux, mais bon, après, je crois que c'est aussi d'époque, hein, comme sa technophilie un peu naïve, c'est-à-dire une sorte, je dirais, d'éco-féminisme, flower power. Après, il y a une chose que j'aime bien, mais peut-être que j'ai pas le temps, mais que j'ai chez lui,
rapidement.
C'est son côté fantasque et baroque qui consiste justement qui tient à son usage justement des formes et des ornements issus de l'histoire de l'architecture, qui va plaquer en façade de certaines de ces architectures, ce qui était banni par la modernité architecturale.
Les piliers grecs,
voilà,
tout ça.
Ouais. En fait, par exemple, il y a une boutique, il y a deux colonnes surmontées d'une arche qui sont dans un style néo-oriental, et ça, c'était quelque chose qui était interdit, voilà. Par le rigorisme moderniste qui voulait qu'à chaque forme réponde une fonction. Il y a aussi par exemple la Haas House dont vous avez parlé qui est un centre commercial avec des parements de verre et de métal qui renverraient à toutes sortes de vocabulaires historiques architecturaux auxquels on comprend rien, mais en tout cas bon ça relève de l'éclectisme ou de l'historicisme postmoderne. Et il y a une dernière chose dont vous avez, je crois, parlé ou ça a été dit dans l'extrait, c'est ce qui l'inscrit pleinement dans la postmodernité architecturale, c'est le fait qu'ils conçoivent des architectures comme des sculptures, c'est-à-dire comme des signes iconiques qui prennent la forme de leur fonction.
Oui.
En l'occurrence, Vulcania, donc, qui est un site dédié à la volcanologie et qui représente ni plus ni moins qu'un volcan qui sort de terre. Et j'ai très envie d'y aller d'ailleurs.
Comme ça, c'est très clair au moins. Stéphane Correa, un dernier mot.
Oui, donc l'exposition se sépare en deux salles. La première, plus artistique. Et ce qui fait la charnière avec l'autre, c'est la question du rituel. De l'autre côté, effectivement, il découvre, finalement, il a un déclic où il va pouvoir se mettre à construire, surtout dans les années 80, après, finalement, avoir assumé cette part postmoderniste qui est révélée à la Biennale de Venise par cette exposition qui s'appelle Présence du passé. Et effectivement, il y a ces boutiques, mais c'est à la limite du kitsch, finalement. C'est ce qu'on appelle l'architecture canard, vous savez, quand un bâtiment a la forme de son usage.
Voilà.
Bon, écoutez, il faut en dire plus. Il y a une exposition simultanément à la galerie Tadeusz Ropak dans le Marais consacrée aux œuvres des années 1960, parce qu'il y a quand même aussi une dimension liée toujours à l'argent et au pouvoir dans ces questions. Donc, la donation a été faite aux États-Unis des œuvres de Hollein qui rejoignent le centre Pompidou. Elle a donné lieu donc à une défiscalisation aux États-Unis parce que ses enfants, notamment son fils, y habitent. Et ces deux enfants sont des grands directeurs de musée.
Oui, le Met.
Voilà, donc Max, son fils qui dirige le Met. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a le droit à cette exposition au centre Pompidou.
Ah, voilà, tout s'explique. Merci beaucoup, Stéphane Coréard, Sarah Hilaire-Meyer, d'être venus nous éclairer aujourd'hui dans le débat critique des midis de culture. Unsoline transforme. C'est jusqu'au 2 juin 2025 au centre Pompidou à Paris, commissariat Frédéric Miguerou. Et le catalogue est aux éditions du centre Pompidou. Toutes les infos, toutes les références sont évidemment sur la page des Midi de Culture. Maintenant, c'est à vous de vous faire une idée, vous qui nous écoutez.